Voilà, je voudrais reprendre une série que j'avais commencée sur l'amour de Dieu, donc tout cet été, et puis peut-être à la rentrée, parce que c'est un sujet tellement large et tellement vaste que ça vaut la peine de s'y pencher régulièrement, étape après étape. Donc je l'ai intitulé « Dieu est amour ». Dieu est amour. Nous trouvons cette définition dans 1 Jean 4,16, première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16. « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte ». Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voilà une parole très forte dont on va y revenir. Alors on va se pencher d'abord sur l'œuvre de Jésus, sur ce qui est Jésus pour nous. Et je vous rassure, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle de parler de Jésus et de son œuvre. De parler de Jésus, de son œuvre actuelle même. C'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas beaucoup d'écho, hein. Non, je comprends, la chaleur et tout, et puis on est habitué, voilà. Alors, dans un premier point, nous allons lire dans Matthieu 11, 28, jusqu'au verset 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Ça, c'est le cœur de Jésus. C'est le seul passage dans les évangiles, qui compte 184 ou 189 chapitres, je ne sais plus, c'est le seul passage où Jésus nous révèle explicitement et directement le fond de son cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et laissons ces paroles résonner en nous, et parce que parfois l'image de Jésus, elle est un peu, on le verra, un petit peu parfois pervertie. Jésus, c'est quand même un maître, c'est quand même notre maître. Et donc, qu'est-ce qu'il pense de nous à certains moments ? Et ce passage, d'ailleurs, fait écho à la révélation de Dieu à Moïse. C'est une déclaration qui est reprise régulièrement dans la Bible, comme un credo, presque, dans les psaumes et les prophètes. Écoutons Moïse qui souhaitait voir la gloire de Dieu. Il souhaitait voir la gloire de Dieu. Il avait vu les prodiges de Dieu, il avait vu des miracles, il souhaitait voir sa gloire. Dans Exode 33, versets 18-19, là-dessus, Moïse reprit « Permets-moi de contempler ta gloire. » Et Dieu lui répondit « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » La gloire de Dieu, ici, c'est sa bonté. Et un petit peu plus loin, au chapitre 34 d'Exode, versets 5-7, l'Éternel va gratifier Moïse, va répondre à la prière de Moïse. L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint près de lui, de Moïse, et proclama son nom. Et nous savons que le nom, ça définit la personne dans la Bible. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce. Lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. » Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième et même quatrième génération. Voilà ce que Dieu montre à Moïse dans ce moment-là. Qu'est-ce qu'il montre à Moïse ? Il montre sa nature profonde, sa bonté, sa grâce, sa compassion, son amour, sa fidélité. Avec, dans cette révélation, un écart énorme entre son amour démontré sur 1000 générations et sa réprobation sur 3-4 générations. Alors au-delà de tout ce qui a pu être dit sur ces chiffres, il y a un écart énorme. La nature profonde de Dieu, c'est ça. La Bible ne dit pas, par exemple, que Dieu est colère. Dieu n'est pas colère. Dieu se met en colère quand il le faut, mais il n'est pas colère. Par contre, elle nous dit que Dieu est amour, que Dieu est lumière. Et c'est différent. Sa nature profonde de Dieu, c'est ce qui est vécu dans la Trinité. Il n'y a pas de colère dans la Trinité, j'espère. Ce qui est vécu dans la Trinité, c'est de l'amour complet. mais envers l'humanité pécheresse, Dieu a des accents de colère à certains moments et de jugement. Mais sa nature profonde, et la nature profonde de Jésus par conséquent, c'est sa bonté, sa grâce, son accueil. Je fais la différence entre la colère. Dieu peut nous reprendre, mais ce n'est pas de la punition, c'est de l'éducation. Hein, faisons bien la différence, je ne m'étends pas là-dessus. Donc, la Bible nous dit que Dieu est amour. Il est comme ça. Ce n'est pas un réservoir d'amour. Il est amour. Dans ce texte, donc, Jésus nous invite à venir à lui. On l'a chanté tout à l'heure, venez à lui. Deuxième point, justement, c'est la question du repos que Dieu nous donne quand nous venons à lui, que Jésus nous donne. Deuxième point, le repos. Jésus nous appelle à venir à lui. Pourquoi faire ? Pour un échange. Échanger nos fardeaux contre son fardeau à lui, contre son joug à lui, et se mettre à son école. Le repos, ici, c'est pas simplement « je fais plus rien » comme en vacances, c'est être libéré de tout fardeau injuste. Dieu avait accordé à son peuple, en le libérant de l'Égypte, en le libérant du péché, lui avait accordé le repos. Mais ce n'était pas sans rien faire, c'était pour se mettre à son école, c'était pour recevoir la Torah, pour recevoir la loi. Ce repos donc consiste à être libéré de fardeaux qui sont injustes que nous n'avons pas à porter. Ça peut être des accusations, ça peut être le poids de la vie, ça peut être beaucoup de choses. L'enseignement de Jésus est libérateur, toujours libérateur. Il ne nous condamne pas, il ne met pas sur nous un fardeau que nous ne pouvons pas porter, même si parfois ça semble être le contraire. On dit au Seigneur, pourquoi c'est lourd, je ne peux pas y arriver. Tu peux y arriver si tu sais mon fardeau, si tu fais la différence entre le fardeau du péché, le fardeau des hommes, le fardeau que nous nous mettons nous-mêmes, les exigences que nous nous mettons nous-mêmes parfois, tu peux le faire. Et son joug, c'est quoi ? Vous savez, le joug, c'est cette pièce de bois que l'on met sur deux animaux pour qu'ils travaillent ensemble. Et le joug ici, c'est être, se mettre avec Jésus dans un accompagnement, c'est recevoir l'accompagnement de Jésus. Quand nous marchons dans la vie, il nous accompagne. Nous sommes attelés avec lui. Quel bel accompagnement. Jésus nous accompagne à travers toutes les épreuves de la vie, toutes les difficultés, tous les moments. Son joug, ça peut nous paraître, ouais, le joug c'est un truc qui va... Je vais être libre. De quoi ? Moi je vais être libre, oui, du péché. La question du péché, justement. 1 Jean 1,8, 10 et 2, chapitre 2, verset 1 à 2. « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, un avocat, auprès du Père Jésus-Christ le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus connaît notre péché mieux que nous-mêmes. Nous avons tendance à l'exagérer ou à le diminuer. Plutôt à le diminuer d'ailleurs, hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Il n'est pas surpris ni choqué quand nous lui parlons de nos péchés. S'il nous demande de venir à lui, c'est pour lui ouvrir notre cœur. Ce n'est pas simplement pour réciter ce que nous savons de lui, mais c'est pour lui ouvrir notre cœur. Parce qu'il nous a ouvert le sien. Viens à moi parce que moi je suis doux et humble de cœur. Et toi, quel est ton cœur ? Ouvre ton cœur. Il n'est pas surpris ni choqué quand nous lui parlons de nos péchés. Il les a tous portés. Tous. Tous portés. Il peut être miséricordieux étant venu, non pour des justes, mais pour des pécheurs. Si je viens à lui en considérant que bon, ça va, je relativise, il n'y a rien qui se passe passer. Il n'y a rien qui va se passer. Mais si je reconnais mon état de pécheur, et chacun met là-dessus évidemment l'actualité de sa vie, je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça. En confessant nos péchés, c'est l'occasion pour nous d'apprendre aussi à haïr le péché. apprendre à le haïr, le péché. C'est pas simplement, je vois, la bonté de Dieu, Romains 2:4, nous pousse à la repentance, au changement. C'est pour apprendre à haïr le péché. Voilà, si vous voulez une démarche biblique sur la confession du péché, lisez le psaume 51, psaume de repentance de David. Psaume 51, c'est un très beau parcours pour entrer dans cette confession du péché avec Dieu. Et vous allez voir, Dieu est bon. Alors, venir à Jésus, ça peut sembler facile, hein, on est venu à Jésus quand on est venu à lui. Si quelqu'un n'est pas encore venu à Jésus pour croire en lui, ben c'est le moment de le faire. Ou en tout cas de se poser sérieusement la question. Et de dire, qu'est-ce qui me retient de croire en Jésus, de croire en lui, en son œuvre, en ses paroles, en ce qu'il dit. Donc n'hésitez pas à dire oui Jésus, devant ce que tu as accompli pour moi, je veux venir à toi. Je veux venir à toi. Lui, il est venu à nous. Il y a 2000 ans, il est venu à nous. Mourir sur la croix, porter nos péchés. Maintenant, il nous attend. Venons à lui. Parfois, on dit, vous savez, Dieu a fait 50% du chemin, nous on fait les 50 d'autres. Non, il a fait 100% du chemin et nous avons 100% à faire. Et croyez-moi, des fois, c'est 100%, c'est beaucoup. 100%, c'est toute notre vie que nous engageons en venant à Jésus. Toute notre vie, ce n'est pas simplement juste un modèle de pensée ou une philosophie, c'est toute notre vie. Alors, nous allons voir rapidement, bien sûr, mais quand même, quatre obstacles pour venir à Jésus. Quels sont ces obstacles? Qu'est-ce que c'est qui peut nous empêcher de venir à Jésus facilement, ordinairement, quotidiennement? Alors, j'ai noté, s'il n'y a pas d'ordre, hein, d'important, le légalisme. Thierry nous en a parlé la dernière fois, donc réécoutez sa prédication, le légalisme. C'est la vision, je dirais, pour faire court, d'un Jésus exigeant. Exigeant. Et je crois qu'il est exigeant. Il est exigeant parce qu'il veut qu'on vienne à lui. C'est ça son exigence. Pour pas qu'il ait accompli tout ça pour rien. Nous pensons qu'il nous faut être dignes pour nous approcher de lui. Alors, oui, parce qu'au début, quand on vient à Jésus, alors oui, on a conscience de notre péché, on était éloigné de Dieu, on a ceci, cela, c'est presque évident de venir. Alors là, on n'est pas trop légaliste, parce que là, c'est tout bénef. Il y a vraiment une œuvre profonde qui se fait. Mais après, quand on est chrétien depuis 5, 10, 15, 20 ans ou 50 ans, on se dit, il faut quand même que, avec tout ce que j'ai vécu, je suis impardonnable, si là, je pêche encore, là, vous voyez, il y a cette sorte de légalisme qui vient. Il nous faut être dignes pour nous approcher de lui. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons justes. Et comme il n'est pas venu pour des justes, ça ne marche pas. Et on se culpabilise encore plus. Ah, je ne suis pas... Bon. Alors qu'il nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. On le trouve dans Romains. Hein. Voilà. Le légalisme. Laissons tomber ce que nous croyons devoir faire pour être acceptés par Jésus. La seule chose que nous ayons à faire, c'est venir à lui. La peur. Deuxième point, la peur. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, l'homme a peur de Dieu. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et je me suis caché. Et Martin Buber, un philosophe juif, disait, on a fait de notre vie une machine à cacher. On cache tout, on se cache et on cache les choses. Et c'est naturel, on ne s'en aperçoit même pas, on se cache. Derrière, il y a l'orgueil ou la pitié de soi. La pitié de soi. L'orgueil ou la pitié de soi. On se cache. Or, l'œuvre de Jésus est fondamentalement une œuvre de réconciliation avec le Père, avec Dieu. Une œuvre de réconciliation. C'est normal que nous ayons peur de Dieu si nous ne le connaissons pas. Et je dirais même, ça peut être sain. Je ne confonds pas avec la crainte de Dieu, qui est un respect profond pour Dieu, qui nous pousse à l'aimer et à lui obéir. L'œuvre de Jésus, la réconciliation avec Dieu, avec lui, je ne crains pas d'être ce que je suis, et non pas ce que je crois être ou pour qui je me prends. Venir à Jésus, c'est lui dire, voilà ce que je suis. Il y a des moments où je suis très heureux, Seigneur, de ce que tu as fait ou de ce que j'ai pu faire, on se glorifie dans le Seigneur, toujours, et à d'autres moments, on peut dire, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Je ne suis pas fier. Je ne me cache pas devant lui. Je ne me cache pas devant lui. Il n'y a pas de pudeur à avoir. Il y a simplement à ouvrir notre cœur. Il est tellement doux et humble de cœur, lent à la colère, riche en miséricorde. Et il n'y a de croissance véritable, justement, on va croître dans la mesure où je pars de ce que je suis. Voilà, Seigneur, tu vois, dans telle situation, j'ai peur, je n'y arrive pas, je suis... Et Dieu ne nous demande pas de confesser des grandes paroles, je suis plus que vainqueur, celui qui ceci, qui cela, mais si notre cœur n'y est pas dedans, ça ne sert à rien. Seigneur, j'ai peur devant ça. Et là, je vous assure qu'on peut entendre la parole du Seigneur venir à nous, de manière précise, pour nous toucher, nous relever, nous donner de l'assurance. Et là, nous croissons, nous partons de ce que nous sommes pour laisser l'œuvre de Dieu se faire en nous. Ça peut prendre du temps, ça peut être rapide. Il n'y a pas longtemps, je rentre dans la chambre d'amis, où j'ai mon bureau, mon fauteuil de prière. Je rentre et j'entends une voix qui me dit « Je t'aime même quand tu ne fais rien ». Je suis ressorti tout de suite. Je vous assure, ça fait drôle parfois. Ça ne m'arrive pas souvent. Hein. Ça fait drôle parce que de certains moments, je me dis « Bon, quand même, il faut se bouger un peu, il faut faire... » Oui, bien sûr. Mais si c'est là notre identité, notre assurance, on a tout faux. Il y a des choses comme ça qui vous marquent dans la vie. Voilà. Mais je vais continuer quand même à travailler et pas à rien faire. Comme disait Luther, hein, quand je bois une pinte à l'auberge, le royaume de Dieu avance. Pas parce que je bois. Attention, hein, je vois d'ici. Non, pas parce que je bois. Mais parce que si l'œuvre de Dieu dépendait uniquement de nous, il faudrait tout recommencer à zéro sans arrêt. J'aime bien ça. Voilà. Comment ? Voilà la première bière, voilà, très bien. Merci. La suffisance. Nous croyons faire tout ce qu'il faut. Nous nous rassurons nous-mêmes. La prière régulière, lecture de la Bible, participation au culte, investissement dans des œuvres, dans des actions. Tout ça, c'est très bien, c'est même basique. Mais nous n'avons pas compris que Jésus veut en tout temps une relation de cœur dans laquelle nous ne nous cachons pas derrière quelque chose. Que ce soit dans le culte, quand je prie, quand je témoigne. Oui, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait, mais est-ce qu'il y avait cette écoute du Saint-Esprit, cette relation de cœur dans ce moment-là? Alors là, ça prend de la valeur, tout ça. Alors oui, le culte, ça prend de la valeur, parce que je viens et j'écoute, j'ouvre mon cœur au Seigneur, j'entends ce qu'il dit, et ça me restaure, ça me fait du bien, et là, je grandis, je crois, et là, oui. La suffisance, c'est, j'ai fait ce qu'il fallait. T'as rien à me reprocher. Ça, on verra à la fin. Nous n'avons pas compris que Jésus veut en tout temps une relation de cœur dans laquelle nous ne nous cachons pas derrière des œuvres, nous pensons être forts et nous avons peur d'être vulnérables. Et ça, on le sait, c'est vrai dans les couples, c'est vrai entre amis, c'est vrai, on a peur d'être vulnérables, c'est-à-dire de se montrer tel qu'on est. Seigneur, non, je ne suis pas courageux, quoi. Je ne suis pas courageux. Et ce n'est pas parce que je crie fort que je suis courageux. Non, je ne suis pas courageux, Seigneur. Mais je vais te montrer ce que le courage, le vrai courage. Et Dieu va nous instruire et nous former. Quatrième point, la limitation de l'amour de Dieu. Ça, c'est important. Nous pensons que l'amour de Dieu est une quantité, alors qu'il est la nature même de Dieu. Si l'amour de Dieu, c'est une quantité, il va falloir se méfier de la date limite de conservation. Il va nous aimer, mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Tu vois, Seigneur, ouais, ça fait 1250 fois que je répète le même péché, et là on se dit, j'arrive au bout de l'amour de Dieu, de sa patience. Ce n'est pas une quantité, c'est la nature même de Dieu. C'est Jonathan Edwards qui disait, l'amour de Dieu, c'est comme un océan, mais sans rivage et sans fond. Jésus nous accueillera autant de fois qu'il le faut. Il n'a pas besoin de renouveler. Ah oui, voilà, je suis un peu arrivé. Non, c'est nous qui avons besoin d'être renouvelés dans l'amour de Dieu, pas lui dans son amour. Il est amour. Et il connaît nos cœurs. Cet amour, donc, si Dieu est amour, l'amour de Dieu est infini. Est infini pour nous. Et chaque fois que nous viendrons à Jésus, nous rencontrerons l'amour de Dieu qui sera renouvelé dans notre vie, mais ce sera le même amour. Amen. La même compassion, la même bonté, le même accueil. Même s'il doit nous reprendre. Et ça, ça fait partie de son amour. Même s'il doit nous reprendre. Cet amour n'a pas de date limite de péremption, de conservation. Dieu n'est pas en colère contre celui qui s'approche de lui. Au contraire, il nous accueille pour nous donner son repos. Et la seule chose que Dieu nous reprochera, que Jésus nous reprochera, ouvrez bien vos oreilles, je vous laisse deviner, c'est de ne pas être venu à lui. D'avoir limité son amour, d'avoir limité son accueil. Alors faites l'expérience de venir chaque jour à lui, même en répétant des fois ce qui nous pèse, ce qu'on n'a pas réussi à vaincre dans nos vies. Alors la bonne posture, on terminera avec quand même la bonne posture. Ne pas cesser de connaître Jésus, le Fils de Dieu devenu homme parmi les hommes et auteur d'un si grand salut. Hébreux 2, 3, 4. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut ? Si grand salut. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en manifestation diverse de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Comment négliger un si grand salut ? Première chose, c'est ouvrir nos cœurs, nos pensées, notre imagination, ouvrir notre esprit à la grandeur du salut de Dieu. On n'a pas fini jusqu'au bout d'apprécier, de sonder ce si grand salut. Les anges désirent plonger leur regard, mais ils ne comprennent pas, ils n'ont pas péché. Et le salut, il est pour des pécheurs. Alors, plongeons dans ce salut. Ne pas cesser de connaître Jésus et son salut. Et son œuvre. Ne pas cesser, chaque jour. Ne pas s'habituer. Il m'a sauvé, alléluia. Oui, mais ça veut dire quoi, il m'a sauvé ? Deuxième point, venir à Jésus, bien sûr, en tout temps, même lorsqu'on est fâché avec lui. Il est sans reproche, sans jugement. Ne pas se laisser arrêter par nos péchés, on l'a vu. Il les a portés, les passés, présents et à venir. C'est au contact de son accueil, de son amour, que nous pouvons vivre une repentance régulière et apprendre à haïr le péché. Bien sûr, on est là pour se repentir, pour le laisser le péché l'abandonner, mais il y a des choses dans nos vies qui nous tiennent. On le sait, il y a des limitations dans nos vies. Lui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de nous appeler à venir à lui. Nous apprenons ainsi à persévérer sans nous laisser décourager. La persévérance est quelque chose de très important parce que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Mais bon, je ne vais pas faire là-dessus. Se souvenir que Jésus est venu pour des pécheurs et non pour des justes, il faut se le répéter. Dès que l'on pense que c'est bon, c'est gagné, on n'a plus besoin de Jésus et on devient légaliste. Jean 5, versets 39-40. Voilà le reproche que Jésus fera aux pharisiens. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Ah, c'est super, c'est une belle démarche. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Toutes les Écritures renvoient à Jésus, on le sait. Mais voilà, deux points, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne reçois pas la vie en lisant la Bible. Non. Je reçois la vie en venant à Jésus, dont la Bible rend témoignage. C'est différent. Ne nous gavons pas de Bible sous prétexte que ça va nous faire du bien. Gavons-nous de Jésus, de venir à lui, de l'entendre, de se laisser toucher, d'apprécier sa présence. Lui, c'est ça qu'il veut. Je suis doux et humble de cœur, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Conclusion. Si nous hésitons à nous approcher de Christ en raison de notre indignité, ce qui peut être souvent le cas, nous nous appauvrissons. Nous n'avançons plus. Et privons Christ du réconfort en tant que le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Nous privons Christ du réconfort de voir son œuvre rédemptrice porter le fruit attendu. il n'est pas mort en vain. Ce si grand salut va porter un fruit dans nos vies si nous venons régulièrement à lui, sans arrêt. Car Jésus n'est pas une réserve de bonté, de douceur, de compassion qui risquerait de s'épuiser. Non, il est doux et humble de cœur, c'est sa nature, comme Moïse l'a compris dans l'Ancienne Alliance. Sa joie est de voir ses enfants venir puiser inlassablement en lui pour être libérés de tout fardeau et du péché afin de l'aimer et de le servir sans crainte. Alors, venons à Jésus.